7h41 sur France Culture.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Plus de 2 ans après la facile conquête de Mossoul, Daesh est aujourd'hui sur le point de perdre sa capitale économique. Si la victoire de la coalition internationale dans la bataille qui s'engage pour délivrer la deuxième ville d'Irak ne fait pas de doute, l'avenir est plus incertain. Bonjour Caroline Galacteros.
Bonjour.
Vous êtes polémologue et colonel dans la réserve opérationnelle des armées. Vous dirigez Planting, un cabinet d'intelligence stratégique, et vous avez publié Manière du monde, manière de guerre. Caroline Galacteros, aujourd'hui on sait que la reprise de Mossoul sera compliquée. Il y a des attentats suicides, il y a des bombes et des mines un peu partout disséminées dans Mossoul et à l'extérieur de la ville. Pourquoi est-ce si difficile de reprendre une ville qu'il a été aussi facile à Daesh de prendre ?
Oui, vu d'aujourd'hui, ça peut paraître effectivement étonnant. En fait, c'est simplement qu'entre-temps, la situation internationale s'est considérablement compliquée. Le nombre des intervenants a augmenté, leur envie et leur but de guerre, surtout qui sont extrêmement différents entre les uns et les autres, font que l'opération est compliquée, parce qu'il faut à la fois arriver à déloger Daesh, on verra s'il s'en va, certes en faisant quelques dégâts pour partir, ou s'il faut vraiment les déloger manu militari et sur une longue période. Je pencherai plutôt pour la première option, parce que si l'on voit la manière dont ils partent de certaines villes, on se rend compte que bien souvent ça se fait non pas forcément d'un commun accord, mais ils comprennent quel est leur intérêt et ils partent. Et en ce moment, tout l'enjeu est évidemment, à mon avis, du point de vue de la coalition, en tout cas du point de vue des États-Unis, de les faire repartir, de les faire basculer vers la Syrie. Malheureusement, cela ne va pas conduire à un apaisement en Syrie, qui se passe à Mossoul.
Aujourd'hui, est-ce que vous avez la sensation, est-ce que vous avez des informations sur le fait que Daesh partirait, quitterait Mossoul ? On a dit que l'état-major avait quitté la ville. Est-ce qu'on a confirmation de cela, Caroline Galacteros ?
Je ne vais pas vous en donner, moi, confirmation. Je parle ici à titre personnel. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a tout un tas de convois qui sont en train de quitter les environs de Mossoul et Mossoul pour se diriger vers la Syrie, vers Deir ez-Zor, vers Raqqa. Uh-huh. Et là, on commence déjà à voir une manœuvre plus globale et on est obligé de reparler des buts de guerre des uns et des autres. Quels sont les buts de guerre de la coalition ? Quels sont les buts de guerre américains ? Quels sont les buts de guerre russes ? Quels sont les buts de guerre turcs ? Ils sont parfois convergents et le plus souvent assez divergents. Ce qui est évidemment à l'origine aussi d'une grande partie de l'impuissance apparente et manifeste des opérations armées.
On va passer ces buts en revue, mais tout d'abord parlons des buts de guerre de Daesh. D'après vous, sont-ils en train de se replier sur d'autres villes ? Donc vous évoquez les villes syriennes, ou bien ces soldats peuvent-ils en quelque sorte s'évaporer dans la nature ? C'est-à-dire considérer qu'aujourd'hui la meilleure chose à faire est de déserter ?
Déserter, ça, vous savez, tous ces gens-là sont à acheter et à vendre aussi. Donc ça, c'est tout le problème de la Syrie et des innombrables groupes, pas seulement Daesh, Al-Nusra, Al-Qaïda.
Justement, ça n'est pas rien. Si ce sont des mercenaires, cela signifie que ce qui les anime est plutôt, donc, on va dire...
Ça aide. Ça aide, l'argent aide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conviction ou qu'il n'y a pas d'envie d'exister politiquement. La question, c'est qui va les laisser exister politiquement et où ? On parle évidemment d'une idée occidentale et en tout cas américaine qui serait de faire en sorte que finalement Daesh et les autres groupes rebelles islamistes qui lui sont ou liés ou d'ailleurs concurrents se mettent dans l'est de la Syrie. Pour contrer, bien sûr, le poids qu'a repris le régime syrien, y compris les forces syriennes avec leurs alliés russes et iraniens. Donc voilà, l'idée d'une séparation de la Syrie, comme d'ailleurs de celle de l'Irak, avec l'établissement de Sunnistan, où seraient les populations sunnites et malheureusement dirigées par des groupes de ce type, est tout à fait à l'ordre du jour.
Encore. Alors, à l'ordre du jour, mais avec des groupes, puisqu'on a vu qu'il y avait aujourd'hui un certain nombre de groupes qui se partageaient le marché, peut-on dire, de l'islam radical, entre donc Daesh, Al-Nusra et Al-Qaïda sous ses différentes formes. Pensez-vous qu'il y ait une différence entre ces différents groupes, ou bien sont-ils mus par la même idéologie et animés par les mêmes personnes, Caroline Galacteros?
Alors, animés par la même idéologie, oui, avec des variantes, bien sûr, avec des allégeances aussi parfois différentes, mais c'est vrai que les deux grands rivaux sur ce terrain-là, sur ce marché, comme vous dites, c'est effectivement l'État islamique et Al-Qaïda et tous ses dérivés. Voilà. Al-Nusra, sous toutes ces appellations. Et nous parlons là de centaines de petits groupes islamistes. C'est considérable. Ce sont eux qui occupent le terrain. Ce sont eux qui essaient de dépecer, de démembrer la Syrie, notamment. Bien sûr, il y a cette rivalité. Il y a des différences, oui, pour savoir si l'on fait la guerre d'abord dans les pays arabes ou si on mène des campagnes d'attentats à l'étranger. Là, bon, mais ce serait assez long et compliqué à expliquer. On n'en a malheureusement pas le temps aujourd'hui. Bien sûr, l'État islamique a proclamé un califat. Et ça a été, comme on le sait, un appel d'air considérable. Quels sont leurs objectifs? Leurs objectifs, c'est d'exister politiquement le plus possible.
On parle d'autres objectifs, les objectifs de l'Union européenne par la voix de Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union européenne aux affaires étrangères.
Notre priorité pendant la campagne de Mossoul doit être de protéger la population civile. Nous sommes d'accord à ce sujet. Et nous savons aussi que la population de Mossoul, ville riche et complexe, est en grande majorité elle-même victime de Daesh.
À cette déclaration répond une autre, celle de Vladimir Poutine, qui a expliqué qu'il espérait que les alliés à Mossoul n'allaient pas faire de victimes civiles. Une déclaration évidemment provocatrice. Votre sentiment ?
C'est la réponse du berger à la bergère. La guerre fait des morts, qu'on la mène sur un mode extrêmement radical, comme le fait la Russie, ou qu'on essaie d'être un peu plus précautionneux. De toute façon, sur les territoires contrôlés par Daesh, ou par Al-Nusra, par exemple à Alep, les populations civiles sont des boucliers humains. Donc il faut juste comprendre que si on veut vraiment en finir avec un mouvement terroriste et le sortir d'une ville et donc sauver une partie de la population, malheureusement, il faut passer outre cette idée. C'est-à-dire, il ne faut pas les laisser prendre des boucliers humains et s'arrêter de taper sous prétexte qu'il y a des civils en cause.
Mais est-il légitime de comparer Mossoul et Alep ?
Et pourquoi pas ? Parce que d'un côté, ce serait nous qui aurions décidé de reprendre Mossoul et de l'autre côté, c'est la Russie qui soutient le régime pour reprendre Alep. Ça, c'est, si vous voulez, c'est la contingence des objectifs politiques des uns et des autres. Ce qui est certain, c'est que l'Amérique veut une victoire en Irak pour faire oublier son impuissance en Syrie. Et c'est pour ça qu'à mon avis, elle va pourrir, elle va d'une manière ou d'une autre faire en sorte que la situation en Syrie ne s'améliore pas.
Et si l'on vous suit, dans ces conditions, on peut considérer également qu'une victoire rapide à Mossoul, et semble-t-il les choses avancent malgré tout plus vite qu'à Alep, une victoire à Mossoul serait également une blessure narcissique pour Vladimir Poutine.
Absolument, absolument. Mais là, on en revient à ce qui est derrière tout cela. Et ce qui est derrière tout cela, c'est l'avenir de la relation russo-américaine et la manière dont la Russie et l'Amérique se mesurent sur un certain nombre de théâtres, pas qu'au Moyen-Orient. On voit bien maintenant le lien direct entre l'Ukraine et la Syrie.
Vous le voyez, mais nous, on aimerait que vous nous l'expliquiez.
Eh bien, il est assez remarquable de voir que chaque fois que quelque chose semble se nouer de manière positive entre Américains et Russes en Syrie, subitement, la situation se dégrade sur le front européen. On reparle de problèmes en Ukraine, on s'étonne que les Russes ne fassent pas ce qu'ils devraient, que les accords de Minsk ne soient pas respectés, alors qu'à vrai dire, ce sont plutôt les Ukrainiens qui ne les respectent absolument pas. Enfin bref, il y a un mouvement de vase communicant entre ces théâtres d'affrontement géopolitique global.
Je vais le dire à ma manière et vous me direz si c'est ce que vous vouliez dire. Il y a aujourd'hui une situation économique préoccupante en Russie du fait notamment des prix bas du pétrole et il y a une sorte de chantage qui est effectuée par Vladimir Poutine en Syrie, qui pèse donc sur la situation, alors qu'en réalité, ses intérêts sont évidemment un peu en Syrie avec la base navale de Tartous, mais aussi plus généralement en Ukraine, en Crimée, et il y a une manière pour lui d'essayer d'obtenir un compromis avec les Américains sur le front européen.
Non, à vrai dire, non. Je pense que, d'une certaine manière, en Europe, la question est un peu réglée. Bon, l'OTAN exerce un certain nombre de pressions assez fortes pour que la Russie soit gênée en Europe. Mais la question est moyen-orientale et, comme vous le dites, elle est très pétrolière. Évidemment, les prix bas du pétrole gênent considérablement la Russie, pays qui vit encore d'une économie de rente. Donc, il s'agit en Syrie aussi, outre les questions d'influence générale et de prise de points d'ancrage militaire, il s'agit, de peser sur le prix du pétrole. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour ça, il faut exercer sa capacité de nuisance pour que les Saoudiens, non pas viennent à récipiscence, mais d'ailleurs essaient de se montrer plus modérés, essaient de faire remonter un peu les prix, puisque c'est eux qui restent malgré tout les maîtres en la matière. Donc quand la Russie frappe depuis l'Iran, par exemple, en août dernier, le territoire syrien, c'est une manière de dire attention à l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, les relations s'améliorent entre Moscou et Riyad. Comme par hasard.
On va voir la manière dont le jeu d'alliance se noue et se dénoue. On écoute le président Barack Obama.
Même les dirigeants de l'État islamique savent qu'ils vont continuer à perdre. Dans les messages à leurs partisans, ils reconnaissent qu'il est possible qu'ils perdent Mossoul et Raqqa, et ils ont raison. Nous devons briser l'État islamique sur le terrain, mais leur défaite militaire ne sera pas suffisante. Tant que leur idéologie perverse persistera et conduira les gens à la violence, des groupes comme celui-là continueront d'émerger, et la communauté internationale continuera de courir le risque d'être aspirée dans cette logique de contre-attaque tous azimuts, en réagissant toujours à la dernière menace.
Votre réaction au propos de Barack Obama, Caroline Galacteros ?
Oui, bien sûr, c'est vrai, il faut défaire l'État islamique. Moi, je vois l'État islamique comme un épouvantail. Un épouvantail qui arrange beaucoup de monde, qui a des modes d'action spectaculaires, terrifiants, épouvantables, que l'on veut frapper sans en même temps totalement l'affaiblir. Il est évident que la coalition occidentale au Moyen-Orient, qui regroupe des pays sunnites et des pays occidentaux, ne peut pas tout simplement se permettre de trop frapper l'État islamique. Sinon,
pourquoi ?
Parce que sinon, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie ne sont pas contents, tout simplement. Voilà.
Êtes-vous en train de dire que la plupart des buts de ces différents protagonistes, la Turquie, l'Iran, la Syrie, je parle du gouvernement et des forces armées de Bachar el-Assad, que leurs buts principaux en réalité ne consistent pas à détruire l'État islamique ?
Mais ils n'ont pas les mêmes ennemis directs. Il y a toujours des ennemis de plusieurs rangs. Les Turcs, eux, ils veulent rétablir leur influence sur Mossoul, ils veulent retrouver une profondeur stratégique. Et leur ennemi numéro un, c'est évidemment pas l'État islamique qu'ils ont beaucoup soutenu, ce sont les Kurdes. Voilà, point. Les Kurdes syriens, bien sûr, parce qu'en Irak, ils font alliance avec les Kurdes irakiens.
Et là, c'est important peut-être de dire qu'il n'y a pas une force kurde, mais plusieurs forces kurdes, lesquelles ne s'entendent pas.
Ah ben, les Kurdes irakiens ne s'entendent pas avec les Syriens ou les Turcs.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Ce sont de vieilles querelles à la fois politiques, économiques, financières. Les Kurdes d'Irak sont très liés aux Américains, qui les ont beaucoup protégés et aidés dans la foulée de l'invasion irakienne en 2003 à établir une zone à la fois économiquement et politiquement quasi autonome, ce qui gêne aussi le gouvernement irakien, lui à dominante chiite, depuis l'invasion de 2003, ça devient compliqué, mais ça ne l'est pas. Donc ça, c'est les Kurdes de Barzani, qui lui est prêt, à vrai dire, à travailler avec tout le monde, pourvu que les contreparties soient importantes. Les Kurdes syriens et turcs, eux, n'ont rien à voir avec cela, et sont là les ennemis numéro un des Turcs en Syrie. Donc là, il ne s'agit pas de travailler avec eux.
en novembre.
Et ce qui est compliqué, parce que ce sont quand même les seuls qui se battent, à vrai dire, contre l'EI au sol et depuis longtemps.
En novembre dernier, un accident grave, un avion abattu avait opposé Moscou et Istanbul. Aujourd'hui, la Turquie et la Russie semblent à nouveau réconciliés. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui leur but de guerre semble converger?
Si vous voulez, du point de vue de la Russie, il est extrêmement intéressant et précieux d'avoir de bonnes relations, qui d'ailleurs c'était le cas avant ce Sukhoi abattu, avoir d'extrêmement bonnes relations avec l'allié du flanc sud de l'Alliance Atlantique. Hein, c'est juste absolument primordial. Donc Moscou a un intérêt à s'entendre avec Ankara. Ankara est évidemment toujours dans l'Alliance Atlantique et en ce moment même mène des opérations avec les Américains, mais évidemment joue de cette rivalité russo-américaine et même avec l'Europe au milieu, et essaie de tirer des fruits de tous les côtés. Donc les Russes lui ont permis de créer une zone militaire où elle peut taper les Kurdes et un petit peu l'EI. Les Américains la font participer à la bataille de Mossoul en essayant de tempérer les Irakiens qui, eux, sont très très énervés de voir les Turcs rentrer chez eux et avoir des prétentions sur Mossoul. Vous voyez, donc chacun joue, en fait, comme toujours sur un théâtre de guerre où il y a de multiples parties, de sa capacité d'influence, de sa capacité de nuisance, de ses atouts, en essayant d'être à la fois précieux pour tout le monde, indéboulonnable par quiconque, et de parvenir à grappiller des avantages.
Il y a une puissance dont on n'a pas encore parlé, les Iraniens aujourd'hui, quel but poursuivent-ils ?
Les Iraniens ont cru, l'ont-ils cru, mais enfin, en tout cas, il a semblé que l'Iran rentrait de nouveau sur la scène internationale, que son économie allait s'ouvrir, qu'enfin cette phase d'ostracisation assez lourde prenait fin. On se rend compte que les sanctions sont très loin d'être levées, que l'Iran est vraiment tenu à la gaffe par l'Amérique, que la France, malheureusement, est dans la roue américaine.
Pourquoi malheureusement? Parce que d'après vous, y aurait intérêt pour nous?
Mais parce que notre politique étrangère devrait être une politique équilibrée, médiane, et que nous n'avions pas à prendre parti pour les sunnites contre les chiites ou vice-versa. Nous ne sommes pas, ça n'est pas notre valeur ajoutée. Notre valeur ajoutée est de bien comprendre les enjeux et de jouer de nos atouts, de notre capacité de médiateur, et pas de se mettre à la remorque ou de faire la guerre pour les uns ou pour les autres. Voilà, ça c'est mon point de vue. Il est un peu brutal, mais c'est quand même ce que je pense.
Ce qui signifie qu'on aurait dû donc militer en faveur d'une suppression complète des sanctions, par exemple, Caroline Galactéro.
Mais ne serait-ce que pour nos sociétés, qui sont extrêmement mal en point. En tout cas, l'Iran, lui, a intérêt pour l'instant, même s'il y a là aussi des rivalités. Aucune alliance n'est totale, on ne parle pas d'amour pur, hein. On parle de convergence tactique ou parfois un peu stratégique d'intérêt à long terme.
Mais juste en un mot, l'Iran, par l'intermédiaire de sa force extérieure, je parle du Hezbollah, l'Iran chiite, accueille des réfugiés sunnites. Donc on voit finalement que la ligne de fracture entre chiites et sunnites, qu'on pensait être en quelque sorte une ligne infranchissable, est en réalité une ligne perméable.
C'est une ligne tout à fait perméable. Rappelons-nous que la Syrie de Bachar el-Assad, la Syrie sunnite, en tout cas la bourgeoisie sunnite, soutenait et soutient toujours largement le régime. Ça, on veut l'oublier, mais c'est quand même un fait. La ligne de fracture confessionnelle est une ligne qui est largement instrumentalisée. Les conflits sont beaucoup plus politiques et énergétiques que confessionnels, à vrai dire. Mais c'est ce qu'on nous montre, c'est ce qui ressort, et c'est ce qu'on instrumentalise pour faire se battre les gens. Mais les politiques derrière sont beaucoup plus prosaïques.